Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous, on est aux anges parce qu'on est très heureux de vous retrouver. Comme chaque week-end pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech, on va passer un petit peu plus d'une heure ensemble. Un petit peu plus d'une heure, puisque vous le savez, dorénavant, à la fin de De quoi je me mêle en version audio, eh bien vous aurez un petit bonus supplémentaire. Voilà, et ça sera dorénavant comme ça chaque semaine. Évidemment, vous pouvez nous retrouver le week-end sur BFM Business Radio Télé, dès le vendredi midi sur YouTube et en podcast audio, avec au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, une petite sélection à l'approche de Noël des meilleurs produits high-tech sélectionnés par le Labo Fnac. Du 5 étoiles, le top du top. On va se faire plaisir tout à l'heure avec Lionel Costa. Et puis je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre et réagir sur Twitter. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Noël approche, Anthony Morel, bonjour.
Salut François.
Est-ce que tu as déjà fait tes cadeaux?
Écoute, je suis presque prêt, je suis
t'es
assez content. Ouais, je suis fier de moi, parce que d'habitude je suis toujours à l'arrache.
T'es tranquillou là.
Bah, je me suis dit là, je vais essayer pour une fois de m'y prendre à l'avance. Ouais. Et là, il me reste un ou deux trucs à peaufiner, mais normalement je suis pas mal.
D'accord.
Ouais.
Bah moi non.
C'est vrai.
Non, c'est dur hein, quand même.
Ouais,
hein,
c'est pas facile.
Toujours. Mais... Et puis, plus la date approche, plus tu commences à stresser.
À paniquer, ouais. Mais là, moi, j'ai profité du Black Friday, en fait. Et je me suis dit, voilà, tous les cadeaux un peu électroniques, machin et tout ça. C'était pas des promos incroyables, mais au moins, ça te donne une date où tu te forces à faire le truc et après, t'es tranquille.
En effet, exactement. Voilà. Dans l'actu, Anthony, alors évidemment, Anthony va être avec nous pour commenter l'actu, vous le savez, comme chaque semaine. On le retrouve sur BFM Business le matin, sur RMC Story et RMC avec Estelle Denis à l'heure du déjeuner. Dans l'actu, pas mal de choses. On va parler de GTA 6, bien sûr, beaucoup d'intelligence artificielle, hein, avec Mistral.ai, qui est, on va dire, un peu notre chat GPT français qui vient de lever beaucoup d'argent. Et Dieu sait si l'argent est important quand on veut travailler dans l'intelligence artificielle générative. Mais pour débuter, eh bien, la grosse actu de cette semaine, c'est Google. Google qui en a marre de se faire distancer par OpenAI et ChatGPT et dévoile, enfin, ouais, j'ai envie de dire, son Gemini ou Gemini, je ne sais pas comment on dit.
Ouais, moi j'ai francisé, je dis oui, Gemini, mais Gemini, enfin, effectivement, voilà. En anglais, c'est Gemini.
Qui est, on va dire, la réponse de Google à ChatGPT.
Exactement, et qui est même censé être, en tout cas, c'est ce que nous dit Google, plus fort.
Oui.
Que GPT-4, donc que
plus
la dernière.
Plus fort, plus beau, plus costaud.
Évidemment. Enfin, ils ont beau jeu de dire ça, évidemment, Google. Oui. Mais enfin, alors,
ils vont pas dit, dire, bon, ça va être moins fort.
Ouais, c'est un peu moins bien, mais essayez
moins
quand
bien,
même.
Mais
vraiment.
Essayez, vous allez voir, on sait jamais.
Ouais, non. Alors, ils disent ça, cela dit, ils se basent pas non plus sur rien pour dire ça, parce que tu sais qu'il y a un certain nombre de mesures académiques,
oui,
pour calculer la puissance sur certains critères très précis, je sais pas moi, la reconnaissance d'images, des choses comme ça. Et donc, sur les tests qui ont été réalisés, eh bien, Gemini obtient de meilleurs résultats que les dernières versions de ChatGPT.
Alors, c'est un peu le benchmark des IA, quoi.
C'est exactement ça. C'est le benchmark des IA. Alors, sachant que, il faut, si on est un petit peu précis, Gemini, et on va décrire après ce que c'est capable de faire, mais il est décliné en trois versions. Il y a Gemini Nano, Gemini Pro et Gemini Ultra. Donc, du moins puissant au plus puissant. Et c'est la version Gemini Ultra, qui n'est pas encore disponible et qui sera disponible courant 2024, qui, elle, est vraiment visiblement plus puissante que ce qui se fait chez ChatGPT.
Et Gemini Cricket, c'est pour plus tard.
Oh, c'est pas mal.
Non.
Eh bien, franchement, envoie à Google, on sait jamais.
Ils
feront peut-être une mise à jour un jour.
La version spéciale Pinocchio.
La version spéciale Pinocchio, qui ment tout le temps. Qui hallucine
tout le temps.
Ça changera pas beaucoup de ce que fait Google d'habitude avec Bard. Parce que franchement... Alors, c'est un point intéressant.
Oui, c'est intéressant parce que justement, par rapport à Bard,
ouais,
comment on peut qualifier Gemini qui va sans doute le remplacer?
Alors, qui va le remplacer, l'améliorer, puisque visiblement ce sera intégré à Bard. Alors, sachant que, en fait, c'est pas le même modèle de langage. Bard se basait sur un modèle de langage qui s'appelle Lambda, Et Gemini, bah, c'est un nouveau modèle de langage qui visiblement est beaucoup plus performant,
moderne.
Et ce qui est important, parce que franchement, Bard, tu l'as testé comme moi, c'était quand même pas incroyable. Ça disait beaucoup de bêtises, il y avait beaucoup d'approximations. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir utiliser, parce que pour l'instant, ça n'est pas disponible encore en France, mais de pouvoir utiliser Gemini. Alors, qui a comme grosse différence avec Bard, que c'est une intelligence artificielle multimodale. Donc multimodale, ça veut dire que non seulement il y a du chatbot, on peut répondre à des questions par du texte, mais on va pouvoir aussi analyser du son et de l'image. Donc on a un vrai assistant personnel qui va analyser le monde qui nous entoure ou qui l'entoure et qui va pouvoir en tirer des conclusions et raisonner presque comme un être humain.
Oui, c'est-à-dire qu'il a quasiment tous les mêmes sens que nous.
C'est ça.
Louis l'a vu.
C'est ça.
Bon, il n'a pas le toucher.
L'odorat, peut-être. Le goût, bientôt le goût.
Bientôt le goût. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va pouvoir, et ça, c'est toute la puissance de Google, qui travaille depuis des années sur, avec Google Lens sur la reconnaissance d'images. Enfin, tout ça, c'est un peu le condensé de ce que fait Google depuis des années, qui était différentes briques. Ouais. Et là, visiblement, tout ça a été imbriqué, en quelque
c'est
sorte.
C'est exactement ça. Le mot multimodal, ils l'utilisent dans chacune de leurs présentations au Google I.O. À chaque fois, il y a des présentations sur les technologies multimodales. Alors, ce n'est pas pour dire qu'ils sont complètement, pionniers en la matière, parce que GPT-4, c'est du multimodal aussi. Il peut analyser de l'image. Alors là, il y a eu des démonstrations techniques qui sont quand même assez spectaculaires. Il faut toujours se méfier des démonstrations, parce qu'il peut y avoir du montage. Tu ne sais jamais dans quelle mesure c'est conforme à ce que toi, tu vas avoir comme expérience en tant qu'utilisateur. Mais quand même, on a donc un humain, un ingénieur qui joue avec Gemini et qui le fait réagir à tout un tas de choses qui se passent. Et donc, tu vois, par exemple, Gemini qui va... par exemple, tu as l'humain qui commence à faire des ombres chinoises. On s'est tous amusés à faire des ombres chinoises. L'IA va comprendre quel animal est représenté par l'ombre chinoise.
D'accord.
Tu as l'humain qui va jouer au bonto. Tu sais, le jeu où tu dois trouver la pièce sous la bonne tasse, etc.
Ouais, ouais.
L'IA va être capable de détecter la manipulation.
J'ai beaucoup joué sous la Tour Eiffel, j'ai toujours perdu.
Ah, c'est bizarre. Je pensais que tu allais me dire, c'est moi qui j'ai beaucoup arnaqué les touristes.
Non.
Dans l'autre sens, c'est mieux, c'est plus sympa.
Oui, c'est vrai.
Complètement interdit, le bonito.
Évidemment.
Mais c'est vrai qu'on en voit parfois dans les rues de Paris et de certaines grandes villes. Et donc, tu as toujours une manipulation, un trucage. Et l'IA, en fait, est capable de détecter le trucage, même quand c'est bien fait, et de dire, la pièce, elle est sous cette tasse-là. Wow. Et de te faire gagner au bonito. Donc, la prochaine fois que tu te feras arnaquer par un touriste sous la Tour Eiffel, par un arnaqueur sous la Tour Eiffel, tu sortiras ton smartphone Android et tu diras, ah non, c'est là, j'en suis sûr. Et l'IA pourrait te donner la bonne réponse.
Est-ce que Google t'a parlé de cet exemple du canard en plastique?
Ah oui, le canard en plastique, c'est impressionnant.
C'est intéressant
aussi.
Ça aussi.
C'est marrant. Alors effectivement, parce qu'en fait, on voit l'ingénieur, la même chose, qui pose en fait un canard en plastique. Et donc l'IA commence à dire, c'est un canard, mais c'est un canard en plastique. Il est bleu, alors c'est pas très courant pour les canards.
c'est rare.
Il fait tout un truc, c'est assez rare. Alors apparemment, il y en a quand même. Ils disent, si, il y en a, mais dans certaines régions du monde, etc. Et l'ingénieur fait un dessin très vague d'un truc qui ressemble vaguement à un canard. Et l'IA dit, si, ça c'est un canard. Là, c'est un canard dans l'eau, et puis là, tu es en train de le colorier en bleu. Enfin, il comprend en fait.
Il comprend ce qui se passe.
Ce qui se passe.
L'action.
L'action qui est en train de se dérouler, ça va même plus loin que ça, parce qu'il y a un autre moment où l'humain mime une scène de film. Alors, c'est une scène qui est reconnaissable, tu sais, c'est la scène Bullet Time de Matrix,
où le mec se penche, c'est ralenti.
Voilà, mais c'est un humain, c'est comme si toi tu jouais un jeu de mime et tu faisais ça. Ouais. Et l'IA dit, ah oui, ça c'est une scène qui vient de Matrix, machin, etc. C'est ça qui est dingue en fait, c'est la capacité de raisonnement et d'abstraction, la capacité à comprendre comme le ferait un être humain. Et là, on sort de ce qui est purement une machine, un truc mécanique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un raisonnement qui ressemble à ce que pourrait être un raisonnement humain. Et de ce point de vue-là, je dois dire que la démonstration, qui, encore une fois, c'est une démonstration technique, on verra ce que ça donne pour de vrai, c'est quand même assez impressionnant.
Ouais. Et juste pour terminer l'exemple du canard, c'est que l'ingénieur pose la question à Gemini en lui demandant, est-ce que ce canard va flotter si je le mets à l'eau?
Ouais.
Et il répond, en fait, donc Gemini répond, je ne sais pas. Et à ce moment-là, l'ingénieur mime sur le canard en fait le fait qu'il fasse pouic-pouic, comme ces canards en plastique de jouets. Et Gemini comprend qu'à ce moment-là, en faisant pouic-pouic, il y a de l'air dedans et donc il en déduit qu'effectivement, il peut flotter.
Ouais, c'est ça.
C'est assez intéressant. En fait, il y a une espèce de raisonnement qui est assez nouveau dans ce type d'intelligence artificielle.
C'est ça. C'est la capacité de déduction qui est hyper intéressante. Il y a une autre démonstration, alors c'est une autre vidéo qui a été publiée par Google, qui est assez aussi parlante de ce point de vue-là, où en fait, tu vois une photo d'un appartement de l'intérieur d'un appartement. Donc, tu as une fenêtre, une chambre, etc. Et on demande à Gemini quelle est l'exposition de cet appartement. Et donc, simplement, à partir de la lumière et de la direction de la lumière, il te dit cet appartement est orienté sud-est, je te dis n'importe quoi. Et donc ensuite, on lui montre une photo d'une plante. On dit, est-ce que cette plante a besoin de beaucoup de lumière? Et où est-ce qu'il faut que je la mette dans mon appartement pour que ce soit optimal? Et donc l'IA, encore une fois, fait la déduction et dit, tu devrais la mettre à tel endroit dans ton appartement à partir d'une simple photo de la pièce. C'est assez fou. C'est assez dingue. Et l'autre point qui est intéressant dans cette démonstration, et là encore, moi j'ai trouvé ça bluffant sur la vidéo, il faudra voir ce que ça donne en vrai, c'est la rapidité à laquelle l'IA répond. C'est-à-dire que c'est vraiment du tac au tac. Ça se fait de manière complètement instantanée.
Il n'y a pas de latence comme on peut l'avoir parfois dans ChatGPT, où on sent que pendant quelques secondes, il réfléchit.
Moi, c'est ça qui m'a frappé, que tu utilises ChatGPT ou Bard, il y a toujours un temps de latence. Quelle que soit la question que tu poses, ça mouline, et puis ça te donne la réponse. Là, ça se fait comme on est en train de discuter, là, du tac au tac.
Parce que l'intelligence n'est pas sur le device, malgré tout. C'est des requêtes qui sont faites dans le cloud.
Alors, en fait, là, c'est intéressant cette question, parce que ça dépendra de la version de Gemini.
Nano, je crois que c'est à l'intérieur du téléphone,
c'est ça.
Sur les pixels.
Nano est faite pour s'intégrer au smartphone Android.
Alors, donc, il est moins puissant, moins intelligent.
Voilà, mais pour le coup, il est en natif, il sera en tout cas intégré dans les smartphones, et les autres, non, effectivement, ce sera des systèmes de requêtes, mais pour le coup, il y aura plus de puissance. Donc effectivement, il y a une mise à jour qui a été faite sur les pixels, pas encore pour tout le monde, et c'est aussi la limite du modèle, et c'est pour ça, quand on dit c'est plus fort que ChatGPT, faut voir, parce que par exemple, cette IA, pour l'instant, elle ne fonctionne qu'en anglais, là où ChatGPT fonctionne dans je ne sais pas combien de langues. Donc, bon.
Alors, c'est prévu en français, sans doute en 2024, mais on n'a aucune date de la part de Google,
non,
malheureusement.
On sent qu'ils voulaient faire un coup.
Et la version ultra n'est pas disponible, se veut être la surpuissance de l'IA générative de chez Google.
C'est ça, mais là, on n'y est pas encore, ce sera pour l'an prochain aussi, normalement. Mais c'est intéressant parce que, pour raconter un petit peu les coulisses de l'émission, mais au début, quand je t'ai envoyé ma liste d'idées de sujets, je t'avais envoyé la liste, il y avait comme sujet Google rate son coup, ils ne dévoileront pas de Gemini cette semaine, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs.
Oui, bien sûr, comme quoi ils décalaient en fait les annonces de Gemini. Et finalement, ils s'y sont tenus.
Exactement, parce que la rumeur, c'était qu'ils n'étaient pas prêts. Alors, est-ce que ils n'étaient pas prêts et sous la pression, ils y sont allés quand même avec une version qui, effectivement, n'est disponible qu'en anglais, avec peut-être quelques limitations techniques par rapport à ce qu'ils voulaient présenter, peut-être. En tout cas, visiblement, ils y sont allés à marche forcée quoi, pour pouvoir, effectivement, rattraper leur coup de retard parce que ChatGPT a quand même un bon coup d'avance dans ce domaine-là.
Bon, vivement que ça arrive en France.
Ouais.
Le modèle économique, ça sera toujours comme Google gratuit. Ça va être intéressant de voir s'il y aura des versions payantes. Au bout d'un certain nombre de requêtes, ça devient payant.
Ouais.
Et comment la publicité pour les versions gratuites va s'intégrer là-dedans? Ça aussi, c'est une question.
Absolument.
Parce que rappelons que Google vit à 90% du marché publicitaire. Donc,
C'est clair qu'il va y avoir des modèles économiques payants. Après, la version Nano est intéressante parce que là, pour l'instant, ils l'ont mis sur les pixels, donc leur smartphone maison. Mais on peut imaginer que de la même manière qu'Android, ils pourraient peut-être commercialiser ça à des fabricants de smartphones pour qu'ils aient le droit de l'intégrer dans les téléphones. Donc, on va voir ce que ça donne, mais ça va être hyper intéressant. En tout cas, là, j'ai vraiment l'impression que Google revient dans la course. Tu vois, je l'ai trouvé pas à la ramasse, mais un peu derrière quand même. Alors qu'on sait qu'ils ont plein de trucs dans les cartons, c'est évident.
Sous réserve, bien évidemment, de le tester, de voir si effectivement toutes les promesses que Google nous balance en communiqué de presse s'avèrent exactes.
C'est vrai. Mais les vidéos, en tout cas, franchement, allez les voir sur la chaîne YouTube de Google. Enfin, on vous en avait vu quelques-unes passer sur la chaîne, là, mais c'est assez dingue.
Ouais, on a l'impression de passer quand même un cap. Dans l'actu aussi, c'est le jeu que tout le monde attend. C'est un jeu qui, au-delà d'un film, est un immense blockbuster, c'est le nouveau GTA. Vous savez qu'il y a une fébrilité autour de ce jeu qui ne s'est jamais vue. Je crois qu'on n'a jamais vu ça.
En termes d'attente et en termes de
buzz autour d'un jeu vidéo. Parce que GTA 6 s'apprête à débouler. Alors, pas tout de suite, c'est 2025 d'après ce que j'ai compris. Mais évidemment, le marketing de l'éditeur est très, très, très bien fait. Puisque, alors que le jeu sort dans un an minimum, voire plus, sans doute plus, parce qu'il y a toujours du retard, on a là, depuis quelques jours, la possibilité de regarder la première bande-annonce du jeu.
Mais c'est dingue. C'est-à-dire que c'est là que je trouve, c'est comme ça qu'on mesure la puissance d'une marque ou d'une franchise. C'est-à-dire le niveau d'excitation généré par la bande-annonce et même par l'annonce de la bande-annonce. bande-annonce.
Ouais, c'est incroyable.
Tu sais, ils avaient dit on fera une bande-annonce qui sera diffusée le 5 décembre ou 6 décembre, je ne sais plus, enfin c'était cette semaine en tout cas. Et le simple fait de faire ça, ça avait généré une hype pas possible. Comme quand Apple dit notre keynote pour les prochains iPhones seront à cette date-là. Il y a très peu de marques au monde en fait qui peuvent se targuer d'avoir ce genre de
pour
générer cette excitation-là.
L'actualité, c'est de savoir qu'un teaser va arriver. Quoi. Ouais. C'est dingue.
C'est complètement fou. Enfin, franchement, il y a très très peu de marques qui peuvent se permettre ça. Et GTA en fait partie. Donc, ils ont diffusé cette bande-annonce qui dure 1 minute 30 hein, pour GTA 6. Donc, on voit des images. Alors, c'est vrai qu'ils donnent super envie aussi, hein, je dois dire. Donc,
quasi photoréaliste hein, pour certaines.
Photoréaliste. Alors, il y a la grande question, est-ce que c'est pas forcément du in-game, tu vois, enfin, évidemment. Ouais. Donc, on verra ce que ça donne in-game.
Là, c'est peut-être des vidéos de présentation, enfin, des choses comme ça.
Exactement.
Qu'il y a dans les jeux, quoi.
En tout cas, ça donne vraiment envie. Donc là, on est à Vice City. Hein. Il y avait déjà eu un GTA Vice City il y a des années. Moi, j'ai joué à ça, mais c'était il y a très longtemps. c'était génial, Vice City, donc c'est une réplique de Miami en fait. Mais là, en fait, et c'est ce qui va faire probablement le succès de ce jeu encore plus que les versions précédentes, GTA, sa force, c'est d'être un jeu bac à sable, un sandbox comme on dit, donc où tu as une liberté quasiment totale.
Le jeu est totalement ouvert.
Totalement ouvert, tu peux visiter la ville, etc. Alors après, tu as le côté un peu sulfureux parce qu'évidemment, tu joues les gangsters dans GTA, évidemment. C'est aussi ça. Hein. GTA, c'est Grand Theft Auto, donc c'est le vol de voitures en anglais. J'en ai volé des voitures.
On est vraiment loin du politiquement correct.
Complètement.
Hein, mais avec énormément c'est l'alcool, de la drogue, le sexe.
Bien sûr. Mais avec beaucoup d'humour,
tout ce qui est
beaucoup
interdit.
De second degré. Ouais, exactement. Là, on joue les méchants. Voilà, on joue les méchants et on s'amuse
mais
à faire ça.
C'est ça qui est grisant.
Bien sûr, évidemment, c'est ça qui est grisant. C'est ça. Alors, ça fait une partie du succès du jeu parce qu'il y a ce côté évidemment un petit peu sulfureux, mais surtout le succès du jeu, il est d'abord c'est des très très bons jeux. Et puis le côté liberté vertigineuse, c'est-à-dire que tu peux vraiment absolument tout faire dans le jeu. Et là, selon les rumeurs, dans ce Vice City, donc Miami, j'allais dire grandeur nature, tu vois, c'est vraiment des villes absolument gigantesques. Tu as tous les gratte-ciels, les immeubles, les maisons. Tu pourrais visiter 70% de la totalité des bâtiments. Et avoir des interactions dans 70%, c'est énorme, tu vois.
On comprend mieux pourquoi il faut quasiment 10 ans à chaque fois pour faire ce jeu.
Bah, c'est
imagine,
exactement ça.
C'est...
Et en plus avec les intégrations
c'est titanesque.
C'est titanesque. Et là, alors on va reboucler avec ce dont on parlait juste avant, mais avec l'intégration aussi de l'intelligence artificielle dans le jeu, par exemple pour améliorer la qualité des dialogues avec les personnages que tu croises dans
d'accord.
le jeu. Aujourd'hui, quand tu croises des personnages qu'on appelle des NPC, des personnages non joueurs dans le jeu, tu as des dialogues qui sont scriptés. Tu as une boîte de dialogue, A, B, C, et puis voilà. Là, en fait, avec l'intégration de l'IA générative, on va pouvoir avoir des dialogues, des lignes de dialogue et des arborescences qui sont quasiment infinies. Donc ça, c'est quand même génial.
Et ça va apporter en fait de la profondeur au jeu. Et en fait, tu vas pouvoir interroger peut-être un personnage plusieurs fois, il ne te dira pas la même chose.
C'est exactement ça.
C'est ça qui est top.
Et donc, ça pourra avoir des implications dans le jeu. Alors, c'est un des vice-présidents de Take-Two, donc l'éditeur du jeu, qui a dit ça. Mais au détour d'une interview, ça n'a pas été beaucoup repris, ça m'étonne d'ailleurs. Il n'a pas donné beaucoup plus de détails, mais en tout cas, ça devrait vraiment ajouter de la profondeur. Et donc, ça pourrait permettre au jeu de à nouveau battre des records. Parce que là aussi, enfin, y a une dimension business qui est complètement folle. C'est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps, hein, GTA V, 190 millions d'unités. Donc, derrière Minecraft. Et c'est le jeu qui a généré le plus rapidement $1 milliard de chiffre d'affaires. C'est le jeu. Alors là, les chiffres.
C'est des chiffres stratosphériques qui dépassent le cinéma en fait.
Complètement. Alors les chiffres qu'on donne là, sur ne serait-ce que la conception et le budget marketing, c'est 1 à 2 milliards. C'est pas des chiffres qui ont été confirmés, mais c'est des chiffres qui tournent beaucoup. Ce qui est énorme, ce qui est absolument considérable. Si tu prends des films comme Avatar ou comme Avengers, les budgets, c'est autour de 450 millions, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'est vraiment, on est même sur des ordres de grandeur différents, quoi. C'est complètement fou. Ça veut dire aussi les attentes qu'ils ont en termes de vente. Parce que si tu investis 1 ou 2 milliards de dollars pour faire un jeu, t'as intérêt à en vendre des caisses en derrière.
C'est vrai. Mais ils savent que ça va cartonner. Ouais. Parce qu'il y a des millions de fans qui attendent ça avec impatience. Évidemment, ça sera sur console. Ça arrive à peu près sur toutes les plateformes. C'est ça qui est top.
Alors, c'est assez marrant que tu dis ça parce qu'il y a eu un grand absent de la présentation, c'est le mot PC. Donc on ne sait pas. Et là, les joueurs de PC sont en stress depuis le début.
Total.
Mais ouais, parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui jouent sur PC, hein, GTA. Et non, il a été annoncé sur les consoles next-gen,
mais pas sur PC.
Alors souvent,
peut-être que ça sera dans un second temps.
Voilà.
Parce que, voilà.
On peut espérer que ce soit ça, mais là, petit coup de stress quand même pour les joueurs PC qui savent pas encore, qui sont pas encore sûrs qu'ils pourront jouer à GTA 6. On imagine que si. Je sais pas. T'as déjà joué toi à GTA ou
j'ai joué.
GTA 3, j'ai beaucoup joué.
Incroyable,
c'était génial.
Cette liberté. En fait, c'est un jeu qui te permet de. Tu pourrais jouer un week-end entier en fait.
Carrément.
À GTA.
Ouais.
Il y a une telle profondeur de jeu, il y a tellement de choses à faire. C'est un jeu où tu explores énormément.
Tu explores beaucoup.
Et ça, c'est top.
T'as énormément de lignes de scénario différentes. Mmh. Ben, Rockstar est très très fort pour ça. Hein. C'est aussi eux qui sont derrière Red Dead Redemption. Qui est aussi chef-d'œuvre de ce point de vue-là, dans un univers complètement différent, dans le Far West.
Oui, Far West,
mais c'est ces jeux où tu as vraiment une profondeur absolument dingue. Donc, non, c'est vrai. Alors, t'as vu qu'Elon Musk a dit qu'il ne voulait pas y jouer. Il n'aime pas GTA parce qu'il faut tirer sur des policiers et ça ne lui plaît pas du tout.
Ça ne lui plaît pas. Oh voilà. Mon Dieu. Donc, voilà. Oui, mais bon, il sait que c'est un jeu.
Faut peut-être lui expliquer. Oui, mais tu sais que Elon Musk, il croit qu'on vit dans une matrice, de toute façon, et qu'on est dans une fiction. Donc, peut-être que la réalité et la fiction, c'est pas tout à fait clair parfois.
Oui, parfois. Vivement que son intelligence artificielle sorte là.
Grok.
Ouais, Grok.
J'ai hâte de voir ça aussi, ouais, clairement.
Peut-être qu'il pourra s'en inspirer. Tiens, on revient à l'IA parce que c'est vrai que c'est vraiment l'actualité du moment. On voit que toutes les grandes compagnies se focus là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des alternatives aux géants américains et notamment une alternative française qui est en train d'émerger vraiment. Il s'agit de Mistral.ai qui est composé, on va dire, de la fine fleur de l'ingénierie, des ingénieurs de l'IA qui travaillaient dans les grands groupes américains et qui ont décidé de quitter en fait les États-Unis pour venir s'installer en France et créer une alternative en fait à OpenAI, etc. Ça s'appelle Mistral. Évidemment, il y a beaucoup d'attentes concernant ce nouveau modèle d'intelligence artificielle parce que derrière tout ça, il y a évidemment l'autonomie dans ce domaine au niveau européen, voire français, la souveraineté, enfin, tous ces sujets-là. Et Mistral a annoncé une bonne nouvelle cette semaine. Enfin,
ils ont annoncé. Alors, ils n'ont pas annoncé.
C'est pas annoncé.
Mais c'est des informations de presse, de Bloomberg, où en général, ils sont plutôt bien informés, qui expliquent que Mistral fait une nouvelle levée de fonds. Alors, en fait, pour vous dire, c'est ce qui est intéressant, c'est la trajectoire vraiment fulgurante de cette entreprise qui a fait une première levée de fonds il y a 6 mois. De 100 millions d'euros auprès de Xavier Niel, Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM, Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, donc des gens quand même qui pèsent un peu. Ce qui était déjà en phase d'amorçage, on ne va pas entrer dans les détails techniques, bon là c'est un peu BFM Business, mais en tout cas c'est vraiment impressionnant quoi, ce qu'ils ont fait sur la promesse d'effectivement avoir une alternative française à ChatGPT. Et là, 6 mois plus tard, nouvelle levée de fonds, 450 millions, donc sur la base d'une valo à 2 milliards, c'est énorme, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on aurait une première licorne française dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Ouais, c'est top.
Et là, ils sont appuyés par des petites startups, des Nvidia, Salesforce, un fonds d'investissement qui s'appelle Andreessen Horowitz aussi, qui est une référence dans le secteur.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est plus des investisseurs français.
Voilà, exactement. Ouais. Alors c'est t'as raison. J'avais même pas pensé, mais c'est un point très
c'est
bon
un
point.
Peu négatif parce qu'on se dit que finalement le capital, part aux US. Mais d'un côté, c'est plutôt positif parce que si Nvidia investit là-dedans, c'est qu'ils ont, ils se rendent compte en fait de l'importance et de la pertinence du modèle d'IA qui est en train de développer donc Mistral.
Absolument.
C'est ça qui est cool.
C'est ça, exactement. Alors sachant que bon, ils ont encore tout à prouver. Hein. Mistral, ils ont montré leur premier modèle de langage qui est pour l'instant en retard sur ChatGPT, mais qui pourrait, alors on verra, hein, mais en tout cas, qui a des spécificités. Alors eux, ils misent sur l'open source déjà, donc ça c'est vachement intéressant. Ouais. Le fait que n'importe qui puisse aller regarder sous le capot la fameuse boîte noire de l'IA, c'est aussi une des problématiques quand on parle de ChatGPT et de ses concurrents aujourd'hui. C'est que personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Là, open source,
oui,
donc voilà,
tout se fait en transparence.
Tout se fait en transparence. Et puis, la possibilité pour les entreprises, parce que ce serait notamment des clients entreprises, de garder un contrôle sur leurs données, ce qu'on fait avec les informations qu'ils entrent dans l'IA. Donc là aussi, c'est des choses qui ont été beaucoup reprochées à ChatGPT. Donc je trouve que c'est intéressant. Ils sont en train de créer à la fois un modèle alternatif et de se poser comme une sorte de petit pousset face à, alors ils appellent ça l'oligopole émergent des IA, mais c'est vrai parce que tu as d'un côté OpenAI qui est adossé à Microsoft, tu as Anthropic avec Claude qui est adossé à Amazon maintenant, tu as Google qui suffit à lui-même, et face à tout ça c'est bien d'avoir des alternatives et des alternatives européennes quoi. Il faut qu'on, c'est maintenant que la bataille elle se joue. Moi j'ai pas envie que, tu vois, comme sur, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais les Européens on a raté toutes les dernières lames de fond technologiques, tu vois, on a raté les smartphones, on a raté les réseaux sociaux, on a raté le cloud, alors même si on a quelques acteurs, mais et là tu vois, c'est là on est au début encore. Il y a vraiment moyen, en mettant un peu d'argent, peut-être de créer des champions mondiaux, mais c'est maintenant concrètement. Quoi,
avec un vrai savoir-faire français qui est reconnu mondialement. Hein.
Bah exactement.
On c'est a ça des... qui est fort.
Et c'est bravo à ces, ouais. ces trois... Alors, je ne sais pas quelles sont leurs motivations exactement, si vraiment ils ont une motivation, j'allais dire, patriotique, ce que je trouverais beau, moi, à titre personnel, bien sûr, ça c'est mon avis, mais tu vois, eux, ils ont tous bossé pendant des années chez Google, chez Meta, ils ont fait leurs armes là-bas, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'ils arrivent à me lever des fonds, parce qu'ils sont reconnus, hein, c'est vraiment des tronches, c'est tous des polytechniciens, normaliens, ce que tu veux.
Sûr, ouais.
Et maintenant, ils reviennent en France et ils disent, voilà, on va créer un champion français. Moi, je trouve ça, enfin, je trouve l'initiative géniale. J'espère vraiment que ça va aller loin et, que, et qu'on va avoir une alternative, enfin, en tout cas, un modèle qu'on peut opposer à ChatGPT, Bard et Grok.
Voilà, alors pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais bon, on aura peut-être la confirmation de cette levée de 450 millions dans les jours qui viennent.
Ouais, à mon avis, c'est...
Ce qui, de facto, permettra à Mistral de devenir la nouvelle licorne, hein, puisque je crois qu'après ces 450 millions, ils auront une valeur de 2 milliards.
Exactement.
Donc, c'est plutôt cool.
Très beau.
Tiens, on reste dans l'intelligence artificielle, parce que, évidemment, l'IA est en train de bouleverser pas mal de secteurs. Sans doute aussi celui de l'éducation, parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative peut se substituer parfois, on va dire, à l'enseignement traditionnel.
Ouais, alors se substituer, mais
parfois,
le compléter en tout cas. Oui, c'est ça. Alors, t'as
compléter,
vu,
on va dire.
Compléter, voilà. Le mot compléter est le bon à mon avis. Bon, t'as dû voir comme tout le monde que on a eu les classements PISA là, cette semaine qui sont absolument catastrophiques pour la France.
Et puis Gabriel Attal, qui est le ministre de l'Éducation, qui essaie de développer une nouvelle stratégie en termes d'éducation, avec des changements importants quand même.
Exactement.
Hein.
Et notamment, alors, enfin, c'est pas l'annonce qui a fait le plus parler, évidemment, mais parmi les annonces, il y a le fait qu'on va utiliser des outils d'intelligence artificielle pour permettre aux élèves de s'améliorer, notamment en français et en maths. Donc, c'est un outil qui a été annoncé pour les élèves de seconde, qui s'appelle MIA, MIA Seconde, qui a été créé par une start-up française qui s'appelle EvidenceBee, d'ailleurs, qui est une super start-up. Et en fait, c'est des outils, alors moi, je trouve ça extrêmement intéressant, qui vont permettre, en gros, de mettre un prof virtuel au-dessus de l'épaule de chaque élève. C'est un peu ça, le principe. C'est-à-dire que, concrètement, tu vas télécharger l'application, on va te proposer des problèmes de maths, donc pour tester ton niveau, voir où tu en es, où est-ce que tu as des lacunes. Et en fait, ensuite, on va te proposer des exercices qui vont être faits sur mesure pour toi.
Rapport à ton niveau
et
tes faiblesses.
Exactement. On va analyser tes lacunes, où est-ce que ton raisonnement bloque. Et en fonction de ça, ça va être vraiment de la haute couture, parce qu'on va le faire vraiment ajuster pour ta personnalité, la façon dont fonctionne ton cerveau. Si l'exercice est trop dur et que tu n'y arrives pas, on va t'en proposer un tout petit peu plus facile. Si tu y arrives, un tout petit peu plus difficile. Donc, tu es toujours dans une zone de tension. Et en fait, on va dire, le cheminement va être différent pour chaque personne, mais à la fin, tu vas avoir l'acquisition d'un savoir. Et donc, ça permet en fait de faire ce que le prof ne peut pas faire. Il ne peut pas faire du sur-mesure avec 30 élèves dans sa classe. C'est très, très compliqué. Et donc, je trouve que c'est en fait des outils qui sont extrêmement intéressants. Donc, ça fonctionne pour les maths. Tu as des outils pour le français. Tu as des outils pour la lecture. Un outil qui s'appelle Lalilo, qui est déjà utilisé, par exemple, en primaire, je crois. Tout ça, ça se base sur une technologie. Alors, on appelle ça le adaptive learning. Donc, c'est l'éducation ou l'apprentissage adaptatif, qui est un truc qui vient des États-Unis, qui est depuis 15 ans. On pourrait se dire c'est du gadget, tu vois, c'est un truc, ouais, c'est pas ça qui va rendre les élèves meilleurs, peut-être, enfin, tu vois, il n'y a pas plus de solution miracle. Mais quand on regarde le haut du classement PISA, donc les pays Singapour, l'Estonie, c'est des pays qui utilisent en fait ces technologies depuis des années. Alors peut-être que c'est pas la seule chose qui explique leur succès,
mais c'est sans doute une recette globale avec comme accompagnement, entre autres, parmi d'autres, ce type de soft.
Moi, je trouve qu'en tout cas, ça peut nous interpeller et ça fait pas de mal, tu vois, au milieu de tout le reste. Je trouve que c'est plutôt intéressant d'intégrer ce genre d'outils. Alors après, je sais pas comment les profs vont le prendre. Est-ce que certains sont peut-être plus ou moins réceptifs aussi, tu vois, au côté technologique. Certains vont dire, on n'a pas besoin de ce truc-là et tout. Enfin, moi, j'ai pas mal d'espoir par rapport à ça. Je suis pas sûr que ça suffise à renverser la table et à faire de nul en maths des Einstein.
Il y a faire que des Einstein partout, mais en tout cas, c'est à tester. Et évidemment, on n'est qu'au début de tout ça. Hein. On peut imaginer que bientôt, toutes les matières pourront être, on va dire, distillé comme ça grâce à cette IA, c'est ça qui est formidable.
Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est un peu le changement de position par rapport à l'IA. C'est-à-dire que quand ChatGPT est arrivé, je ne sais pas si tu te souviens.
Il y avait une espèce de tension de la part du camp enseignant sur ces sujets.
L'une des premières applications dont on a parlé, y compris dans les médias, tu sais, c'était les cas de triche.
Sur les devoirs.
Les devoirs, et c'est vrai, c'est un outil de triche incroyable, ChatGPT, il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi le voir. On peut aussi voir le verre d'eau à moitié plein et voir les trucs hyper positifs qu'on va pouvoir faire grâce à ça, c'est-à-dire le côté complètement assez égalitaire aussi. La possibilité pour un élève, par exemple, tiens, en langue, moi j'ai testé un truc qui s'appelle c'est Jimglish, c'est un outil français aussi.
Qui existe depuis très longtemps, Jimglish.
Et bien alors, ils ont créé une.
Mais ils l'ont fait évoluer.
À la sauce IA, tu vois, et en fait, tu peux discuter en langage naturel avec, comme si tu étais en train de discuter avec un anglais, un japonais, un chinois.
Ouais, c'est top.
C'est comme si tu faisais un voyage scolaire, tu vois. Enfin, gère, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un voyage scolaire ou un prof particulier. Là, tu vas avoir cet outil-là. Alors après, il faut vouloir y avoir accès, mais en tout cas, tu as ça à portée de ta poche, c'est quand même dingue.
On va terminer par une info qui va faire plaisir à tous les utilisateurs de PC. Vous avez aimé Windows 11, vous allez adorer Windows 12.
Ouais.
Et oui, puisque Microsoft prépare l'arrivée de Windows 12.
Apparemment, ouais. Windows 12 qui... Alors, on a une date de sortie. Alors, c'est des rumeurs. En fait, pour être tout à fait précis, c'est un journal taïwanais. En général, ils sont bien informés parce qu'ils sont au plus près des fabricants de composants.
Parce que ce sont les fabricants qui, les premiers, sont au courant du développement d'un nouveau Windows, puisqu'il va intégrer leurs machines qu'ils sont en train de fabriquer.
C'est exactement ça. Et donc, du coup, là, c'est une interview d'un monsieur qui s'appelle Barry Lam. C'est le président de Quanta Computer. Donc, c'est l'un des leaders de la production d'ordinateurs dans le monde. Et au détour d'une phrase, je ne sais pas si ça lui a échappé ou s'il a fait exprès, mais il déclare l'été prochain quand Microsoft lancera une nouvelle génération de systèmes d'exploitation Windows.
Donc, wow.
Peut-être qu'il s'est fait derrière, mais déchiré par la com de Microsoft.
Satya Nadella l'a appelé, il lui a dit, tu sais quoi ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Barry, j'ai deux trois nouveaux à te dire. Mais en tout cas, voilà, il laisse entendre que le Windows 12 pourrait arriver donc dès l'an prochain, qui va être un vrai enjeu pour Microsoft, parce que Windows 11, on en avait beaucoup parlé en amont. Je ne sais pas si tu te souviens, on disait ça va être mise à jour majeure, la plus grosse mise à jour depuis des années. Et en fait, ça ne prend pas tant que ça. En fait, quand tu regardes dans les chiffres, ben, y a assez peu de gens en proportion, si tu veux, qui sont passés de Windows 10 à Windows 11. Donc, c'est un peu décevant de ce point de vue-là. Et donc là, cette nouvelle... Alors, à ton avis... Quel va être le point fort de Windows 12 ?
Oh là là ! À mon avis, on va en bouffer de l'IA.
Comme absolument tout ce qui est technologique en ce moment, c'est IA Inside. Et en gros, là, l'idée, ce serait de créer en fait la future génération de PC qui seront des PC dopés à l'intelligence artificielle. Et donc, Windows 12 tournerait autour de ça. Alors, sans qu'on ait tous les détails pour l'instant, tout ça est encore très, très vague. Mais en tout cas, cette nouvelle version, elle sera clairement tournée autour de l'intelligence artificielle.
Oui, avec sans doute le copilote qui existe déjà sous Office 365 qui arrivera. On murmure qu'une version copilote de Windows pourra arriver pour te faciliter les tâches quotidiennes que tu as avec ton Windows, par
exemple.
Bien sûr,
ouais.
Donc, ça va être intéressant. Ce qui va être intéressant aussi, c'est est-ce que les constructeurs de PC vont rajouter des puces particulières pour faire traiter cette IA, ouais. Ou est-ce que tout sera dans le cloud finalement et que voilà, avec ton PC de 2018, tu pourras avoir autant d'intelligence sur Windows 12 qu'un PC que tu viens d'acheter.
Ouais, tout à fait.
C'est assez intéressant.
Moi, je pense qu'il y aura effectivement aussi les fabricants de PC vont avoir tout intérêt justement à avoir ça comme argument commercial. On sait que les ventes de PC
commencent à fatiguer. C'est vrai que pour eux, ça peut être aussi
c'est
la planche de salut, quoi, se dire tiens, on va rajouter de l'intelligence artificielle, etc. Un peu comme Google, et on boucle la boucle hein, avec Gemini Nano qui, sur le Pixel 8, grâce à une puce spécifique, devient beaucoup plus intelligent.
Donc, de toute façon, vous allez voir que dans les mois qui viennent, on va dire en l'année 2024, tous les smartphones, tous les fabricants de téléphones, tous les fabricants d'ordinateurs, ça va être leur argument marketing numéro un, ça va être de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Des fois, ce sera complètement bullshit, ça ne vaudra rien et il n'y aura quasiment rien, mais en tout cas, ils vont se mettre cet argument commercial-là à toutes les sauces, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ce qui fait vendre. Et pour les PC qui sont complètement en berne, hein, les ventes après le Covid, et où il y a eu une vague d'équipements avec le télétravail, etc., c'est complètement cassé la figure. Et là, c'est l'occasion pour eux de se refaire la cerise, si tu me passes l'expression.
Oui, c'est clair. C'est notamment Samsung. Hein. On murmure que le prochain Galaxy S24, qui devrait être annoncé après le CES, miserait tout sur l'IA.
Ouais.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le système d'exploitation qui est collé à Android, fabriqué par Samsung, va rajouter de l'IA ? Est-ce que Samsung va lancer sa propre IA ? Parce que c'est quand même un géant, tu vois, du smartphone. Ils ne peuvent pas rester à côté de cette vague. Et puis derrière, ça nous fait encore questionner encore plus sur Apple. Parce qu'Apple va se retrouver vraiment isolé et il va falloir qu'ils réagissent très très vite sur ce sujet.
Il faut qu'ils s'y mettent.
Mais on murmure qu'iOS 18, qui devrait sortir avec l'iPhone 16.
Ouais, on en avait parlé avec Nicolas Lelouch la semaine dernière de ça, ouais, effectivement.
Mettrait le paquet sur l'IA.
Ouais, ils mettraient le paquet sur l'IA, mais c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont rien dit. Alors, c'est toujours pareil, hein, la stratégie d'Apple, c'est toujours d'observer et puis après de. Mais sur l'IA, il faut quand même être, faut être au taquet, quoi. Parce que les. Enfin, je veux dire, des boîtes comme Google ou Samsung, elles rigolent pas, elles mettent des milliards. Et en fait, l'IA, le truc, c'est que c'est un processus, comment dire. Plus tu travailles dessus, disons que tu as un avantage à travailler très longtemps en fait, sur ces sujets-là. Ce n'est pas un truc que tu peux t'approprier en l'espace de 6 mois, contrairement à d'autres technologies. Donc,
Anthony, on va se retrouver dans quelques minutes.
Dans quelques minutes ?
Oui, parce que tu sais que là, nous allons retrouver Lionel Costa pour notre rendez-vous Labo Fnac avec les meilleurs produits de l'année, les produits 5 étoiles, petite sélection. Franchement, vous avez envie de vous faire plaisir. On va vous donner quelques bons produits high-tech. Et puis, notre module bonus, Anthony, on va le faire. On a une petite news pour vous, plutôt sympa. On ne vous en dit pas plus, mais ce sera, vous le savez, une exclusivité sur le podcast audio. Voilà, en téléchargement, vous aurez votre petit module bonus tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure Anthony.
Tout à l'heure.
Et tout de suite donc direction le Labo Fnac avec Lionel Costa qui nous rejoint.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Deuxième partie de notre De quoi je me mêle. Allez, on va se faire plaisir à l'approche des fêtes de fin d'année. On va vous faire une petite sélection de quelques-uns des meilleurs produits testés cette année en 2023 par le Labo Fnac. Autant vous dire que là, c'est la crème de la crème et c'est avec Lionel Costa qui est là. Salut Lionel.
Bonjour François.
Heureux de te retrouver mon
Moi
cher
aussi.
Lionel, directeur du développement du Labo Fnac.
Responsable.
Responsable. Et oui, responsable et tout ça, il faut pas se tromper. Hein.
C'est ça.
Tu nous as fait une petite sélection des produits les mieux notés du labo. C'est ça qui est cool parce que effectivement vous testez des centaines de produits, des centaines de produits par an. Et là, on se retrouve avec le top du top.
En fait, là, on s'est vraiment. J'ai voulu vraiment me concentrer sur les meilleurs produits pour se faire plaisir. Souvent, j'essaie de trouver des petits compromis, etc. Là, c'est vraiment la performance avant tout. Il y a beaucoup de produits. On en a quand même sélectionné que un à chaque fois. Et on s'est orienté plutôt sur un usage domestique. C'est un peu cocooning. Se dire, on veut se faire plaisir pour être chez soi. Donc là, vraiment, on va se concentrer sur chez soi. Quel équipement je peux acheter pour vraiment me faire plaisir ?
Alors là, autant vous dire qu'il y a des produits qui coûtent cher. Hein. Voilà, on n'est pas dans le rapport qualité-prix, mais plutôt dans ce qui se fait de mieux. On commence à 200 €, on monte jusqu'à 1 800 à peu près. Donc il y a un peu de tout. Vous allez voir, il y a des télés, il y a pas mal de sons, beaucoup de sons aussi, enceintes, casques, barres de son, etc. Donc voilà. Si vous avez envie, par exemple, de vous offrir une télé, tout de suite, on va évoquer un modèle Samsung que vous avez adoré. Vous avez mis 5 étoiles sur une télé qui a quoi comme particularité ? Ah oui, c'est une OLED,
C'est ça. En fait, c'est les QD OLED. Donc, la nouvelle techno de Samsung qui existe maintenant depuis un peu plus d'un an. Il y a évidemment toujours le trio gagnant des meilleures télés. C'est Sony, LG, Samsung. On a sans oublier Philips, évidemment, TCL, etc. Mais cette Samsung-là, donc la référence, c'est la TQ55S92 CAT. Elle est à 1 799 €. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? Bon, allez, elle est 4K, HDR, ça on en parle plus, c'est une base.
Ça, toutes les télés le font, même à 500 francs.
Exactement.
500 balles.
Mais sur 5 étoiles, il est mérité sur l'ensemble des axes. C'est-à-dire que ce soit en termes de fidélité colorimétrique, en termes de progressivité, en termes de vue angulaire aussi, de directivité, enfin... L'ensemble des éléments la rendent polyvalente. Elle est vraiment dans le haut de gamme sur la partie qualité d'image. Et c'est ce que nous mesurons. Le petit plus qu'elle a en plus pour se faire plaisir un petit peu aussi, c'est évidemment son OS, le Tizen, qui est bourré d'applications gratuites.
Ouais, c'est top. Hein. Franchement, c'est l'un des OS les plus riches. Hein. Il y a dedans.
En concurrence, il a évidemment la partie Android télé qui est évidemment hyper, hyper riche également. Mais Samsung essaye justement je pense qu'il y arrive, de concurrencer Google avec vraiment, Android, avec des applications, par exemple, avoir des télés gratuites. Sans que l'utilisateur ait acheté quoi que ce soit, un abonnement. Non, pas du tout, c'est gratuit, c'est fourni dans sa télé. Elle est en fréquence de balayage 144 Hz. Ça, pareil, pour les gens qui veulent jouer,
Donc pour la fluidité, c'est
exactement.
Top.
Exactement, on est dedans. Et un petit accessoire qui est sympa, c'est tout bête, mais c'est la télécommande. C'est une télécommande solaire. Ah elle ouais. A pas de pile.
Ça, c'est top.
Donc, va plus s'embêter avec les piles à recharger ou quoi que ce soit. Elle est solaire. Vous la posez.
Elle capte la lumière intérieure, extérieure, etc.
Oui, enfin, c'est vraiment limite. Ça devrait être une norme même pour tout le monde maintenant.
Ouais. T'imagines un peu le nombre de piles économisées avec ce type de télécommande. C'est infernal. C'est incroyable.
Sachant que ça consomme en fait un flux infrarouge de télécom, ça consomme rien. Donc, en fait, on se dit bon, bah, pourquoi ne pas utiliser simplement l'énergie solaire. J'aime bien, quand je fais les sélections, j'aime bien choisir quand même plusieurs marques pour donner un petit peu d'équité. Là, pour rester dans le monde de la télé et de l'image, on a quand même, j'ai quand même choisi une barre de son de la marque Samsung également.
Alors attends, juste pour terminer sur cette télé. Oui. La nouveauté, c'est que Samsung a toujours été un peu à l'écart de l'OLED, qui était plutôt la chasse gardée de LG. Là, ça y est, il se lance dans le QD OLED qui... on va dire, de par vos tests, est meilleur que l'OLED de LG ou équivalent, à peu près ?
Ça se joue à des pouillèmes.
À des pouillèmes, d'accord.
Mais c'est surtout sur une partie.
Mais Samsung a rattrapé son retard en termes de contraste, de...
De colorimétrie, surtout. En fait, le QD OLED pour Quantum Dot, en fait, l'idée, c'est d'avoir, dans les QD OLED, un backlight, un rétroéclairage. Alors, l'OLED n'a pas de rétroéclairage, mais il faut donc que chaque sous-pixel envoie une certaine intensité de couleur, que ce soit rouge, vert, bleu, avec souvent un sous-pixel blanc pour compenser le manque en luminance. En fait, Samsung a trouvé une solution en faisant une espèce de matrice uniquement bleue, avec des quantum dots, donc des filtres à particules, à nanoparticules, qui permettent de changer la couleur ensuite en rouge, vert. Et donc bleu qui est le natif, ce qui permet d'éviter ce souci de manque de luminance et d'avoir des pics lumineux très intéressants. Donc non seulement il a rattrapé son retard et en colorimétrie on est sur du pougnième, on est à peu près équivalent, mais en termes de luminance on est pas mal du tout, parce que toute l'énergie du bleu permet de compenser ce problème qu'avait le OLED.
Voilà donc pour cette télé Samsung, donc 5 étoiles, tu l'as dit, 1799 €. Il y a peut-être des réductions, des choses comme ça, non? Le Black Friday est terminé.
Là, on arrive sur la fin d'année, il y aura peut-être des petites opérations. Si vous achetez ceci, vous aurez cela. Je ne suis pas trop au fait de toute la partie commerciale. Mais et après, on a les soldes, évidemment, qui permettront aussi de faire des réductions, mais ça sera après les fêtes.
Associé à ça, tu le disais, tu as commencé à évoquer ça. C'est une barre de son.
Oui, exactement. Une barre de son Samsung. Je ne suis pas un grand fan des écosystèmes monomarques, un peu propriétaires, un peu fermés. J'aime pas trop cet enfermement-là. Mais là, pour le coup, il y a une vraie valeur ajoutée. La Samsung HWQ990C, elle est à 1499 €.
Ah ouais, pas donné. Hein. C'est quand même une barre de son.
On se fait plaisir. Et en fait, c'est une barre de son qui n'est pas monoproduit. Elle a évidemment les deux enceintes arrière et le caisson de basse.
Ok.
Mais c'est c'est presque un home cinéma elle toute seule. Elle a l'intérêt d'être complètement couplée au contenu qui va être diffusé sur l'écran télé. Et grâce à une techno qui s'appelle le Q-Symphony de chez Samsung, c'est pour ça que je parle d'écosystème un peu propriétaire, le Q-Symphony de Samsung permet de synchroniser non seulement la barre de son, évidemment ses satellites et son caisson de basse, mais aussi les haut-parleurs de la télé. C'est tout bête en fait, mais si j'ai...
En fait, le haut-parleur de la télé devient une voix centrale, c'est ça ?
Alors, une voix centrale sur certaines fréquences, les voix par exemple.
D'accord.
Et surtout, on va pouvoir presque localiser la source du son. C'est-à-dire que si quelqu'un parle en haut à gauche de mon écran, je vais avoir l'impression que le son vient de là, du haut-parleur qui est là. Ouais. Donc, c'est vraiment
bien fichu. Super 5 points, quoi.
En fait, c'est même... Ils annoncent même un 11, en fait. C'est une espèce de... Mais oui, parce qu'évidemment, la barre de son envoie aussi des sons un petit peu en mode...
Donc,
mode
c'est compatible Dolby Atmos. J'imagine.
Exactement. Ouais. C'est compatible Dolby Atmos. Donc, il y a une espèce de sonorisation globale, une spatialisation du son qui est complète. Et quand on a une télé Samsung, ça permet d'avoir, en plus, vraiment l'ensemble de l'optimisation sonore que Samsung prévoit. Donc, voilà. Ils annoncent un 11.1.4.
D'accord. Mais malgré tout, quand c'est passé dans votre labo, vous estimez que c'est l'une des meilleures barres de son du moment.
Ouais, pour rappel, nous, en chambre anéchoïque, en chambre acoustique, on ne teste les produits qu'en mode stéréo. Voix gauche, voix droite. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre en place les rebonds. Mais uniquement là-dessus, donc on a vraiment le potentiel pur des haut-parleurs. Ouais. C'est une 5 étoiles. Ouais. Réponse en fréquence, c'est nickel.
C'est intéressant parce que Samsung n'a pas été... Enfin, c'était pas une marque référence en termes de son.
Ah, ils ont monté.
Ils ont monté, mais maintenant, ils arrivent. En fait, ils ont énormément progressé et font partie, rentrent dans la cour des grands.
Oui, complètement. C'est ça qui est intéressant. Surtout sur la partie sonorisation de l'ambiance audio-télé. série.
Guillaume
en fait.
Cinéma, on
exactement,
va dire.
On est vraiment dans ce schéma-là. Mais ça reste comme le haut de gamme de chez Samsung. Donc, bon.
Oui. Si on se prend la télé plus la barre de son, voilà. C'est un joli ticket quand même.
Mais je ne peux pas m'empêcher quand même de proposer une autre barre de son qui est pour nous une petite pépite qui par contre elle est à moins de 200 euros. Elle est à 199 €. C'est la Denon.
Ah, ça c'est beaucoup plus abordable. Ouais,
mais oui, c'est... Alors, si on veut se faire plaisir avec la télé mais sur la partie barre de son on veut quand même y aller un peu plus mollo, il y a la Denon DHT S316. Elle est à 199,99 €. Je ne veux pas trop parler de rapport qualité-prix, je parle d'abord de qualité. C'est une 5 étoiles. À ce prix-là, c'est une 5 étoiles. Elle a quand même un caisson de basse, elle n'a pas les satellites. Mmh. Donc au niveau spatialisation du son, on aura une impression d'immersion sonore peut-être moindre par rapport à la Samsung, mais on est sur quelque chose de très haute qualité en termes de fidélité de son dans les graves, dans les médiums, dans les aigus. On n'a pas l'écosystème classique de Samsung, mais on est quand même sur quelque chose...
On n'est pas en Dolby Atmos, hein, d'après ce que je vois là. Alors, c'est du Dolby Digital ou du
c'est
DTS.
Ça. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes... technologie de haut-parleurs qui vont diffuser du rebond acoustique de tous les côtés. Voilà. On n'est pas dans cette immersion.
C'est
plus simple, c'est plus standard.
Mais c'est efficace.
Mais voilà. Et exactement, c'est la qualité sonore qui vient qui vient face à nous. On va avoir vraiment ce son, c'est moins immersif que chez Samsung, mais ça reste une qualité qui est très très bonne.
Tout à fait, avec un caisson de basse qui est livré pour 200 euros.
C'est un kit en rapport qualité-prix. Il fallait que je le cite parce qu'on peut aussi se faire plaisir sans... complètement casser son livret A ou son PEL, on a aussi des trucs hyper abordables, hyper intéressants.
Voilà, et puis rappelons que Denon, c'est pas n'importe qui, hein, c'est une marque mythique japonaise, spécialisée dans la hi-fi, alors qu'il a un peu perdu sa superbe, hein, il faut quand même l'avouer. Hein,
c'est tout le monde de la hi-fi en fait.
Ces dernières années, mais qui reste une marque très respectée auprès des audiophiles. Donc voilà, c'est une marque sérieuse. Quoi.
Et pour une simple barre de son, même s'il y a un caisson de basse, je voudrais donner comme cette info, on l'a mesuré à 98 décibels à 100 Hz, donc dans les graves. Mm-hmm. 98 décibels. Donc,
alors moi, ça ne me dit rien, mais c'est bien.
Alors, en fait, faut imaginer que dès qu'on atteint les 100 décibels, c'est très très fort et on peut sonoriser une pièce de 50-60 mètres carrés assez facilement.
Sans problème.
Là, c'est juste une barre de son
qui
fait 98 décibels. C'est assez énorme. Donc, on a... Et à bonne qualité. Hein, parce que quand on relève ce niveau de puissance, c'est à une certaine qualité.
Oui, il ne faut pas
qualité.
Qu'il y ait de distorsion, etc.
Exactement,
etc.
C'est pas une saturation totale.
Eh bien voilà, ça fait plaisir. Une bonne nouvelle que cette barre Denon, c'est la DHT S316, tu le disais.
C'est ça.
Autre sélection, toujours dans le son, enceintes.
C'est ça, parce qu'il y a des
gens... Alors là, on est un peu plus audiophile.
C'est ça, exactement. Là, c'est pour les gens qui... C'est pas la barre de son qu'ils veulent. Eux, ils veulent, c'est vraiment de la qualité musicale, que ce soit pour regarder la télé ou
J'ai un téléphone portable. J'ai Spotify, Deezer,
ou même de l'audio ARS ou Cobuz, etc.
Ça,
je veux avoir du son de qualité. Là, c'est clairement un petit chouchou en fait de mon collègue Régis qui s'occupe des tests audio. C'est de la marque Triangle. Alors, beaucoup d'audiophiles connaissent la marque Triangle. Elle est assez emblématique, mais celle-là, elle est assez dingue à un prix qui est pas si énorme que ça. La Triangle Borea BR03BT, bon, BT pour Bluetooth, qui est à 599 €. C'est la paire, hein, c'est les deux, c'est pas une seule.
Donc c'est-à-dire que pour 600 €, on en a deux.
C'est ça, exactement.
Okay.
Du vrai stéréo, avec une qualité qui est assez incroyable. Je me suis noté, je parlais des 98 décibels de la barre de son de tout à l'heure. Là, on est à 114 décibels à 100 Hz. 114 décibels.
Ça commence
avec
à être
une qualité qui est excellente, sans distorsion, sans rien. Au niveau de la réponse en fréquence, c'est-à-dire la capacité de l'enceinte à produire les graves et médiums aigus, elle est un tout petit peu plus riche sur les graves, mais compensée ensuite sur le reste. Et ça donne, en termes de perception, un son assez incroyable. Moi, j'adore écouter du Nina Simone, par exemple. Mmh. On a fait l'écoute comme ça, subjectivement, assez incroyable. C'est assez bluffant. Elles sont toutes simples, c'est des parallépipèdes.
Mais alors comment t'écoutes la musique avec ? T'es obligé d'avoir un ampli derrière ? Comment ça marche ?
Ah non, elles sont actives celles-là. C'est-à-dire que l'ampli est intégré. Elles sont Bluetooth.
Donc elles se relient sans fil toutes
Exactement.
Les deux. D'accord ? Donc en fait, il suffit de les brancher au courant.
C'est tout.
Tu en mets une à droite, une à gauche.
Voilà.
Et après, tu te connectes avec ton téléphone sur les enceintes.
Exactement, et c'est tout. Ou avec ta télé, ou avec n'importe quelle source Bluetooth, puisque tu vas te connecter.
C'est que du Bluetooth ?
C'est que du Bluetooth sur celle-là.
C'est dommage, non ? Parce que Bluetooth, c'est vachement compliqué.
On a du câble... tu me mets un doute. Est-ce qu'on a la fibre optique dessus ? Non, elles sont que Bluetooth, celle-là. Mais avec justement la PTX, en fait, on a une qualité qui est absolument extraordinaire.
Le Bluetooth APTX, qui est un Bluetooth qui est moins destructeur que Bluetooth traditionnel, on va dire.
Pour rappel, le Bluetooth, c'est de la compression de signal sans fil, mais dans la compression, évidemment, il y a de la destruction de données. Mais l'APTX permet d'avoir une destruction moindre et vraiment proche des qualités audio, haute définition des CD, etc.
Très bien, ben voilà, ça s'appelle donc les Borea BR03BT.
Et alors, donc, j'ai pas mis dans la sélection les deux Vialet.
Oui.
Pourquoi? Alors,
Parce que les deux Vialet un peu emblématiques.
C'est
hein,
ça, c'est les réacteurs, les fantômes, etc. Ouais. Elles sont très très bonnes, elles sont exceptionnelles. On est sur des prix, quand on va en avoir deux, qui dépassent plusieurs milliers d'euros. Donc voilà.
Rapidement, il nous reste 2 minutes. Oui. Ta sélection casque, avec évidemment un casque au prix stratosphérique.
Oui.
Et un autre qui n'est pas donné quand même aussi. Hein. Là, tu fais plaisir. Hein.
Bon, les deux sont à 5 étoiles, hein, quoi qu'il arrive. On a le Focal Clear MG 1490€. Donc, c'est du casque de salon, c'est du casque filaire, c'est pas fait pour se balader, c'est pas pour aller sous la pluie ou faire
du sport
avec.
Donc là, il faut avoir un bon ampli, une bonne source, etc. Ça s'adresse, on va dire, aux mélomanes.
Ouais.
C'est le top du top.
Chez nous, c'est le top du top. Okay. On a pas testé, c'est vraiment un casque de studio.
Voilà, le Focal Clear MG.
Voilà, qualité audio, réponse en fréquence. Il n'a pas de réduction de bruit, parce que vraiment, le but, c'est vraiment de l'écouter à un endroit où on est bien, seul. C'est un peu ça.
Ouais, c'est un peu ambiance auditorium. Quoi.
Oui, complètement. C'est exactement ça. Il est fait pour ça. Hein. Après, bon, il a des caractéristiques physiques, mécaniques qui sont... il a des transducteurs en magnésium. Alors, est-ce que c'est efficace ou pas? Nous, nos tests montrent que ça l'est. Bon, c'est vraiment un produit de toute beauté.
Alors, si on a un budget un peu plus limité, mais quand même conséquent, parce que là, le Bowers & Wilkins dont tu vas nous parler coûte 790€.
C'est ça,
même,
Bowers & Wilkins PX8. C'est une vraie sélection d'ailleurs de mon collègue qui teste les casques, qui me disait, mais celui-là, à l'oreille, au confort, c'est vraiment agréable. C'est un casque Bluetooth, donc sans fil. Donc, on est toujours sur les contraintes de tout ce qui est connexion sans fil, mais une réponse en fréquence qui est hallucinante, que ça soit en isolation, c'est-à-dire la capacité du casque à s'isoler des bruits extérieurs, ou même en perturbation, c'est-à-dire de ne pas perturber nos voisins de gauche et de droite, il marche très très bien, et il est surtout, en termes de connectivité, en Bluetooth 5.2 APTX, donc la dernière norme de connexion Bluetooth.
D'accord. Donc il n'est compatible que sur les téléphones Android, hein, rappelons-le, hein, parce que l'iPhone n'est pas APTX.
Exactement.
Il n'est pas Bluetooth APTX.
Ça marchera en Bluetooth, mais il ne sera pas en APTX.
Voilà.
Il n'aura pas les mêmes sources audio.
Mais c'est déjà pas mal, en fait, finalement. Hein.
Et c'est vraiment pour se faire plaisir.
Le PX8 de Bowers & Wilkins, on est à 790€.
Mais
on
est... Joyeux Noël.
Voilà. Bon, ça fait du bien aussi, c'est vrai que ces produits, à part la barre de son à 200€, voilà, mais les autres sont assez ont des prix assez élevés, mais c'est le top du top.
Là, c'est pour se faire plaisir.
C'est pour se faire plaisir, en effet. Merci beaucoup Lionel Costa, responsable du développement du Lab Ofnac, pour terminer ce De quoi je me mêle. Enfin, quand je dis terminer, c'est pas tout à fait le cas, puisque vous le savez, depuis la semaine dernière, si vous êtes avec nous en audio, si vous écoutez le podcast audio bien de quoi je me mêle, il y a un petit module bonus qui vous attend. Et ce sera avec Anthony Morel. En tout cas, merci de nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, à la fois sur BFM Business, mais aussi sur notre chaîne YouTube et un peu partout sur la plateforme Tech & Co. Salut à tous et à la semaine prochaine.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.